dialogue stratégique sous-entend de voir des intérêts convergents à long terme, voire même à très long terme, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs décennies, et de voir dans quelle mesure construire un parcours commun avec un objectif de prospérité partagée. Et ce dialogue stratégique ne peut pas avoir pour prisme unique la volonté de l'Europe de se barricader et de se prémunir contre une invasion migratoire supposée, et ne peut pas avoir comme prisme unique la volonté de l'Afrique d'exporter son trop-plein d'individus en Europe.
Vous parlez de l'Europe qui a tendance à se barricader. Que pensez-vous de la présence militaire européenne dans certains pays de l'Afrique, qui est interprétée d'ailleurs comme une stratégie de l'Europe pour stopper les migrations, arrêter les jeunes Africains qui veulent partir, les arrêter déjà sur le terrain?
À mon avis, aujourd'hui, la coopération militaire entre l'Europe et l'Afrique, elle est vraiment anecdotique. Et justement, moi, j'estime que dans le cadre de ce partenariat stratégique, nous devons d'abord tenir compte des urgences aujourd'hui. Si vous regardez l'Afrique et si vous regardez le Sahel en particulier, l'urgence, ce n'est pas forcément les questions d'émigration, mais l'urgence, ce sont les questions sécuritaires. Il est souhaitable que nous ayons un volet de coopération sécuritaire et de défense beaucoup plus approfondi que ce qui est constaté aujourd'hui. Et ensuite, dans un second temps, que nous regardions de manière stratégique, qui peut gagner quoi dans la gestion des flux migratoires de manière appropriée. Moi, ma position, c'est de dire que l'Europe ne devrait pas se préoccuper des migrants qui arrivent sur son sol, mais elle devrait se préoccuper de comment réguler le flux pour que nous n'ayons pas des millions et des millions de migrants qui arrivent régulièrement sur le sol européen.
Moussa Mara, vous avez également parlé des dirigeants africains qui ne doivent pas laisser les Africains se déverser sur le continent européen.
Absolument.
Vous êtes candidat à la présidentielle prévue au Mali le 29 juillet, dans un peu plus de 3 mois. Est-ce que vous allez pouvoir gérer autrement?
Mais absolument, parce que moi je pars en Afrique du postulat stratégique que l'immigration, le fait de quitter le territoire africain est à terme mauvais pour le continent africain. Un pays ou un continent qui perd ses fils, perd ses intelligences, perd ses énergies, perd sa créativité. De manière stratégique, c'est négatif. Donc nous devrons travailler sur cette question avec les populations, avec nos diasporas, pour ouvrir des perspectives, mais aussi ouvrir les yeux de nos parents sur les dangers de l'immigration illégale.
Oui, mais une des raisons de ces départs massifs, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le manque d'emploi. Le Mali, votre pays, est un pays d'origine de beaucoup de migrants.
Exactement, c'est ce que je vous disais. Il faut travailler sur plusieurs segments. Il ne faut pas seulement employer un discours ou un langage particulier. Il faut d'abord que le leadership soit exemplaire, qu'il y ait une gouvernance responsable et participative, qu'on dise la vérité aux populations et ensuite qu'on engage un partenariat avec les populations et puis qu'on aille jusqu'à travailler sur les questions de démographie, sur les questions de développement économique, des infrastructures, de création d'emplois. Moi, j'entends m'atteler à cette tâche de manière courageuse en disant la vérité aux Maliens et aux Africains et en travaillant avec eux de manière transparente sur tous ces enjeux stratégiques pour notre pays.
Alors, après avoir servi comme Premier ministre pour Ibrahim Boubacar Keïta entre avril 2014 et janvier 2015, vous ne vous en êtes pas caché, hein, vous avez condamné la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta. Ne saviez-vous pas que la gestion était mauvaise en coopérant avec lui?
Vous savez, quand vous êtes appelé à travailler pour votre pays, vous avez l'ambition de servir, vous avez l'ambition de faire des choses bien au bénéfice des Maliens. Mais au bout d'un certain temps, quand vous vous rendez compte que les choses sont difficiles, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas mener à bien vos projets, ben vous en tirez les conclusions et puis vous essayez de trouver d'autres dynamiques. L'engagement politique est fait de cela. Moi, je me suis engagé auprès du président Ibeka avec l'intention, comme lui-même il a promis, d'œuvrer à ce que le pays change. Malheureusement, cela n'est pas le cas aujourd'hui, mais maintenant nous devons tourner la page et essayer d'ouvrir un nouveau chapitre. C'est dans le sens de cette direction que je m'engage en tant que candidat à l'élection présidentielle prochaine.
Vous êtes peut-être fâché parce que finalement il a préféré Soumaïlou Boubéi Maïga à vous, Soumaïlou avec qui vous étiez en conflit?
Ce n'est pas une question d'être fâché. Moi je veux construire un nouveau destin pour mon pays. Je ne suis contre absolument personne, mais je suis pour les principes de gestion. Je suis pour la bonne gouvernance, je suis pour l'exemplarité des élites, je suis pour le renouvellement, le rajeunissement de la classe politique qui est assez vieillissante dans notre pays.
Vous prenez le Rassemblement et l'Unité nationale alors que vous vous étiez illustré en encourageant le gouvernement de votre pays à, s'il le faut, utiliser la force pour déloger les puissances qui occupent encore des territoires dans le Nord. On se souvient de votre passage à Kidal. En 2015, ça n'avait pas marché, alors que Soumaïlou Boubeïmaga a pu s'y rendre apparemment avec succès.
Encore une fois, je ne veux surtout pas me comparer avec qui que ce soit. Moi, mon voyage à Kidal n'était pas du tout destiné à déloger qui que ce soit. Je ne suis pas allé à Kidal avec des tanks ou des chars. Donc, il ne faut surtout pas avoir une connotation belliqueuse à ma démarche ou à ma visite. Ce sont les groupes armés présents dans la ville qui ont tiré sur notre délégation et ont fait des morts dans notre délégation et au niveau des populations civiles qui étaient là. Donc, ce contexte est un contexte particulier. Celui dans lequel le Premier ministre actuel est parti est un autre contexte. Ce n'est pas le plus important. Si vous suivez mon parcours, vous verrez que nulle part dans ma rhétorique, il n'y a jamais eu de volonté belliqueuse de détruire quoi que ce soit. Le pays, on a besoin de le construire, on n'a pas besoin de le détruire. Et je le construirai si les Maliens me font confiance.
Moussa Mara, quelle est votre proposition en une phrase quant à la gestion de la crise malienne? On parle de décentralisation. Est-ce que selon vous, c'est une solution?
Il faut appliquer l'accord de paix totalement. Le gouvernement actuel est à 20% d'application de l'accord de paix, alors qu'on devrait être à 100% il y a encore un an. Il faut appliquer l'accord de paix. Dans l'accord de paix, il y a de la décentralisation, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Le désarmement, l'unification de nos forces armées, le redressement du pays, la réconciliation. Il faut appliquer l'accord de paix totalement et j'entends le faire et dans un délai court.
Et qu'est-ce que vous allez faire? Les élus locaux reprochent au pouvoir central à Bamako de ne pas leur transférer les moyens pour rendre efficace la décentralisation. Que feriez-vous?
Moi, je suis un ancien élu local. J'ai été maire de tous les candidats importants à l'élection présidentielle. Je suis le seul à avoir été maire. Donc, je connais la réalité locale. Je connais la décentralisation. Je m'engagerai à ce que la décentralisation soit enfin une réalité dans notre pays avec des communes et des régions dotées comme il faut pour servir les populations maliennes là où ils vivent.
Moussa Mara, merci beaucoup.
Merci bien. Merci.